Europe Midi, le journal jusqu'à 13h15, c'est avec vous Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Europe Midi. Avec à la une aujourd'hui le souvenir, 2 ans après, cérémonie d'hommage ce matin, hommage aux victimes des attentats du Stade de France, des terrasses et du Bataclan. Cérémonie extrêmement sobre. Vous entendrez les rescapés dès le début de ce journal. Et tout à l'heure, dans le débat d'Europe Midi, nous ferons le point sur l'enquête, 2 ans après. La réforme est lancée, réforme du bac. Une grande mission de réflexion doit durer 2 mois, mais vous verrez que les grandes lignes de cette réforme sont déjà sur la table. Simplification et revalorisation. Dans ce journal, un séisme particulièrement meurtrier, au moins 340 morts en Iran et en Irak. C'est une zone montagneuse entre les deux pays qui a été touchée. Faut-il instaurer un âge minimum pour le consentement sexuel des enfants? Le gouvernement répond oui. La limite pourrait être fixée à 13, 14 ou 15 ans. Nous en parlons dans un instant. Au sommaire également, il veut faire payer l'entrée des cathédrales. Vous entendrez Stéphane Bern, le monsieur patrimoine de l'Élysée, considère que c'est la seule manière de sauver les édifices menacés. Et puis la quille pour Covid et Nélias, leur trimaran vient de franchir la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Salvador de Bahia, les voilà. La météo, bonjour Christine Peña.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
La neige est là, et bien là.
Oui, tous les massifs ont blanchi. La neige continue à tomber cet après-midi, même en montagne corse, à partir de 900 mètres. Sinon, le beau temps arrive par l'ouest. Du coup, toute la moitié ouest du pays est sous de belles éclaircies. À part sur les Pyrénées, la montagne fait obstacle et les nuages font pas de saut d'obstacle pour l'instant. Je vous fais rêver avec les températures. 5 à Aurillac cet après-midi, 7 à Grenoble, 9 à Limoges et Reims, 10 à Paris, 11 à Bordeaux et 12 à Perpignan.
Un météo complète juste avant 13h. Europe Midi, c'est parti.
Europe Midi. Maxime Switek sur Europe 1.
C'était il y a 2 ans, une soirée d'horreur, des kamikazes qui se font exploser à proximité du Stade de France, des rafales d'armes automatiques aux terrasses de cafés parisiens et un carnage à l'intérieur du Bataclan. Au total, 130 morts et 2 ans plus tard, donc ce matin, plusieurs cérémonies d'hommage aux victimes de ce 13 novembre 2015. Maxence Lambrec, le président de la République Emmanuel Macron, y a participé. Il vient d'ailleurs de quitter le Bataclan.
Oui, et depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron n'est jamais apparu aussi bouleversé, aussi ému. Il a eu plusieurs fois les larmes aux yeux ce matin dans les bras des familles des victimes. De longues étreintes dans le silence, quelques mots de compassion, toujours aux côtés de son épouse Brigitte Macron. Le président a pris le temps de mettre des visages derrière ces attentats, lui qui en 2015 était au second plan, ministre de l'économie. Sur chacun des lieux de cette tragédie, une cérémonie très sobre, comme l'année dernière, à la demande des victimes. Aucune prise de parole, simplement cette terrible liste des victimes assassinées.
Aux 92 fauchés en ces lieux, Stéphane Albertine, Nick Alexander, Jean-Jacques Amiot,
Armel Antisévique Punir, Thomas Ayad.
Emmanuel Macron et Anne Hidalgo déposent ensuite une gerbe de fleurs devant la plaque commémorative et ils ont répété ce geste 6 fois ce matin. Ici, devant le Bataclan, la vie s'est arrêtée, comme au lendemain du 13 novembre. Des centaines d'habitants sont venus se recueillir et devant eux passent des blessés en fauteuil roulant ou en béquille, des médecins du SAMU, des bénévoles de la Croix-Rouge, des policiers de la BRI, des personnes qui restent, eux, elles aussi, meurtries à vie.
Maxence Lambrec en direct du Bataclan pour Europe Midi. Un témoignage dans ce journal, celui de Zorica, blessée au Stade de France. Elle n'avait pas pu participer aux cérémonies l'an dernier. Elle était là ce matin.
J'ai pas remis les pieds au Stade de France parce que c'est là que l'explosion elle a eu lieu et puis que j'ai vu toutes les personnes de ma famille par terre. J'étais là aussi et de venir ici, ça me rappelle en fait tout ce qui s'est passé, quoi. Que j'avais envie de passer le cap. De venir au moins la première fois. Je suis accompagnée par ma mère et les autres personnes qui sont ici, qui sont victimes avec nous. Malheureusement, ma sœur, elle n'a pas pu venir dû à ses douleurs, parce qu'elle est gravement blessée aussi. Et puis, l'année dernière, je ne suis pas venue à l'hommage, mais cette année, j'ai voulu venir. Qu'on se rappelle tous les ans quand même ce qui s'est passé, parce que c'est pas rien. C'est vrai que l'attentat, il est passé, mais ils sont toujours là avec leurs douleurs. Moi, pour ma part, je vois toute ma famille, je vois ma sœur, ma belle-sœur, je la vois aussi, et ils ont du mal. C'est des souffrances, c'est des blessures de guerre qu'ils ont.
Un témoignage recueilli par Mathieu Bock pour Europe 1. 2 ans après ces attentats, où en est l'enquête? Les magistrats pensent pouvoir clore leurs investigations en 2019. Une quinzaine de personnes ont déjà été mises en cause. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à la planification, l'élaboration à l'exécution des attaques. 13 sont en détention provisoire en France, en Belgique, en Turquie. Et parmi elles, il y a évidemment Salah Abdeslam, le seul membre du commando du 13 novembre encore en vie. Pierre de Cossette, Abdeslam est toujours détenu à Fleury-Mérogis. Et ces derniers temps, son comportement préoccupe l'administration pénitentiaire.
Oui, les surveillants de Fleury, mais plus largement les juges d'instruction en charge du dossier et la ministre de la Justice en personne. Nicole Belloubet a d'ailleurs dit il y a quelques jours « Tout est fait pour éviter un suicide de Salah Abdeslam ». Ces derniers temps, le terroriste s'est en effet montré alternativement prostré dans sa cellule, mais aussi irritable et avec des propos de plus en plus incohérents. Est-ce l'effet de son régime de détention tout à fait exceptionnel ? Seul, absolument seul, 24 heures sur 24, à l'exception de ses contacts avec les surveillants et les parloirs occasionnels avec ses proches. Toujours est-il que pour préserver sa santé mentale, je cite là un connaisseur du dossier, il a été décidé de modifier à la marge certaines conditions de son séjour à l'isolement. Fini la couche de plexiglas opaque de sa fenêtre qui l'empêchait de voir l'extérieur. Terminé aussi la grille et l'hygiaphone qui empêchait tout contact physique lors des visites de ses proches. Le but, c'est donc de faire en sorte que Salah Abdeslam ne perde pas la raison dans l'optique d'un procès qui ne se tiendra pas avant de longs mois, vous le disiez sans doute même pas avant 3 ans, et sans qu'on sache ce qu'Abdeslam pourrait bien y dire, lui, qui n'a plus d'avocat et qui, lors de ses 4 auditions par les juges d'instruction, est resté mutique.
Pierre de Cossette, où en est l'enquête sur les attentats du 13 novembre ? Qui sont les commanditaires ? Qui est le cerveau présumé des attaques ? Qui a financé ces attentats ? Toutes ces questions, nous les poserons tout à l'heure dans le débat d'Europe Midi à 13h05.
Et vous pouvez, comme chaque jour, sur Europe 1, participer au débat d'Europe Midi. Vos questions, vos réactions, c'est dès maintenant sur Twitter avec le hashtag #1midi et au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute.
Autre titre à la une de l'actualité de ce lundi midi, c'est ce monument que le gouvernement veut rénover, le baccalauréat. Une grande mission de réflexion est lancée aujourd'hui, elle va durer 2 mois. Les profs, les parents, les élèves, tout le monde sera entendu, sauf que, Virginie Salmen, certaines grandes lignes ont déjà été posées. La première, c'est la simplification des épreuves.
Oui, un bac avec seulement 4 matières à l'examen et le reste en contrôle continu, donc évalué sur table toute l'année. C'est ce que le ministre Jean-Michel Blanquer prône depuis longtemps. Il en avait parlé dans ses livres sur le système éducatif. Toute la difficulté va être de faire accepter à certains professeurs que leur matière ne figure plus à l'examen national. Ou alors il faudra imaginer des épreuves interdisciplinaires, ou encore l'élève choisira les dominantes qu'il passe à l'écrit. Ce sont ces modalités pratiques qui vont se décider dans les 2 mois qui viennent.
Deuxième objectif de cette réforme, Virginie, revaloriser le bac.
Et oui, parce qu'un 18 en sciences au bac S ne vaut pas toujours réellement 18. Parfois, ces élèves brillamment notés tombent de haut quand ils arrivent en école d'ingénieur ou à la fac. Voilà ce que pense celui qui conduit la réforme, l'ancien directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot. Et puis pour lui, il faut en finir aussi avec les 21 sur 20. Vous savez, ces notes obtenues par des élèves qui cumule plusieurs options. Même chose pour les mentions très bien, beaucoup plus fréquentes et donc dévalorisées.
Le but, c'est aussi, Virginie, de mieux aider les élèves dans leur orientation, justement.
Oui, alors l'idée, c'est qu'ils arrivent avec un meilleur niveau au début de leurs études supérieures. Pour ça, le ministre part du principe qu'il faut plus travailler les matières qu'on va utiliser à la fac ou en école. Donc, un lycée plus à la carte, dans lequel il est possible qu'on supprime les filières L, ES ou S. Là, les élèves feraient leur choix parmi une liste de modules. Et puis, l'autre objectif, c'est de ne plus envoyer systématiquement tous les élèves vers le bac. Une réforme de la voie professionnelle et de l'apprentissage sont aussi en cours. Donc, revaloriser les filières pro avec de meilleures formations.
Et alors, j'ai une question subsidiaire pour vous. Cette réforme, elle entrera en vigueur quand ?
Alors, pour l'année scolaire 2020-2021, donc le bac 2021. Et donc, pour les classes de seconde, ça implique une réforme qui va entrer en vigueur dès la rentrée prochaine.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Merci Virginie. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'exprime par ailleurs aujourd'hui dans Le Parisien. Il annonce notamment la création d'unités laïcité, des unités mobiles qui pourront venir épauler les profs ou les personnels d'un établissement en cas d'incident ou de manquement au principe de laïcité. Par ailleurs, un plan mercredi va être mis en place. Le ministre veut multiplier les activités périscolaires gratuites le mercredi à destination des plus jeunes.
Il est 12h39, Europe Midi, la suite du journal. Maxime Switek.
Le dernier bilan est terrible. Au moins 340 morts en Iran et en Irak après un tremblement de terre qui a touché hier soir une zone montagneuse à la frontière des deux pays. Jean-Sébastien Soldaini, l'ayatollah Khamenei en personne a demandé à toutes les forces armées iraniennes de participer aux opérations de secours.
Toutes les forces armées et même le corps d'élite, les gardiens de la révolution affiliés directement à l'ayatollah sont sur le terrain pour superviser les secours, tenter de sortir des survivants des décombres. C'est une zone rurale autour de la ville de Sarepol-Esamm qui semble la plus touchée avec 236 morts recensés, près de 4000 blessés et partout les mêmes scènes, des façades entières qui se sont écrasées sur les passants et les voitures dans les rues alors que les bâtiments restent debout grâce à leurs armatures de béton. Dans la matinée, une femme et un nourrisson ont pu être extraits des gravats. Les autres survivants, eux, se regroupent sur des terrains vagues et tentent de se réchauffer autour d'un feu. De l'autre côté de la frontière en Irak, les dégâts semblent plus limités, même si la zone reste toute proche. Les autorités font état pour l'instant de 8 morts et 300 blessés dans ces secteurs parfois inaccessibles aux secours. Des glissements de terrain ont coupé les routes et les répliques sont encore nombreuses. Plus de 120 depuis le séisme d'hier soir. Séisme ressenti partout au Proche-Orient, jusqu'en Turquie et en Israël.
Jean-Sébastien Soldaini.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h40. Europe Midi se poursuit dans un instant avec vous, Maxime Switek.
Et avec cette question, faut-il instaurer un âge minimum pour le consentement sexuel des enfants? À tout de suite.
Europe Midi. Il est 12h43 sur Europe 1, la suite d'Europe Midi, Maxime Switek, avec donc un acquittement qui fait beaucoup réagir.
Acquittement prononcé par la cour d'assises de Seine-et-Marne la semaine dernière. Les jurés ont refusé de condamner un jeune homme de 22 ans qui avait eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Pour la cour, la fillette n'a pas été forcée, il n'y a pas eu de viol, le parquet a fait appel. Mais cette affaire repose la question du consentement sexuel des enfants. Le gouvernement veut faire changer la loi. Il veut fixer un âge limite en dessous duquel on ne pourra pas considérer qu'un enfant était consentant en cas de relation sexuelle. Écoutez la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.
On ne doit jamais débattre en France en 2017 de la question de savoir si un enfant de 9 ans, de 11 ans a pu être consentant ou ambigu pour accepter un rapport sexuel avec un adulte à cet âge-là. On n'a pas la maturité affective, on n'a pas la connaissance de ce qui nous attend suffisant pour faire part d'un consentement éclairé. La loi doit être modifiée, ça veut dire la loi ne dirait pas on pense que a priori il n'y a pas consentement mais ça se discute. Ça veut dire que la loi dirait ça ne se discute pas dès lors que c'est un enfant d'un âge inférieur à 13 ans ou à 15 ans, on considère que c'est un viol ou on considère que c'est une agression sexuelle et pas une atteinte sexuelle comme actuellement.
Marlène Schiappa, micro Europe 1, Justin Morin. Bonjour Katia Dubreuil.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. On entend la ministre à l'instant. Pour elle, il ne peut pas y avoir de débat sur ce sujet. Est-ce que vous êtes du même avis?
Non, effectivement, on n'est pas du même avis. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'en dessous, par exemple, de 15 ans, un mineur ne peut jamais consentir à un acte sexuel? Qu'un mineur de 14 ans, par exemple, qui aurait une histoire d'amour avec un jeune majeur de 18 ans, aurait forcément été violé et que ça ne souffre pas de discussion? Pour nous, c'est bien parce qu'on ne le peut pas, que la définition d'un âge de maturité sexuelle qui serait le même pour tous les mineurs est impossible, qu'il ne faut pas instituer un seuil aussi rigide qui obligerait, en fait, à condamner dans tous les cas de figure pour viol. Une fois que ce serait inscrit dans la loi, il faut bien le comprendre, le juge ne pourra que condamner pour viol, par exemple, ce jeune majeur de 18 ans qui a eu une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans. Et on voit bien que la définition d'un âge de maturité est impossible à travers justement les questionnements qui se posent pour fixer ce seuil à 13 ans, à 15 ans. C'est impossible de déterminer pour tout le monde et sans regarder concrètement chaque situation un tel seuil.
Mais pour vous, c'est le principe même d'un seuil qui pose problème ou ça dépend, je dirais, du niveau du seuil, si c'est 13, 14 ou 15 ans?
Au niveau du seuil, évidemment, plus il est bas et plus ça rejoint le fait que, certes, pour les enfants, évidemment, il n'y a pas de question. Pour les enfants en dessous d'un certain âge, il n'y a pas de question. Mais après, en voulant déterminer un seuil, c'est parce qu'on veut bien répondre justement à ces âges limites de la préadolescence ou de l'adolescence. Et c'est là que, du coup, si on fixe un seuil trop bas, on va manquer effectivement ce qui est recherché. Donc, c'est totalement inutile. Et si on le fixe de façon trop élevé, évidemment, là on se retrouve dans le cas de figure que je racontais tout à l'heure sur une adolescente par exemple de 14 ans, voire de 13 ans qui pourrait avoir des relations consenties dans le cadre d'une histoire tout à fait normale.
Justement, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, considère elle qu'on pourrait fixer cet âge à 13 ans?
Ça ne paraît pas opportun de fixer un seuil parce qu'encore une fois, il faut regarder concrètement dans chaque cas de figure ce qu'il en est. Il ne faut pas galvauder l'infraction de viol. L'infraction de viol, elle est punie d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour répondre à la gravité d'un acte, d'un auteur qui contraint intentionnellement sa victime à avoir une relation sexuelle avec lui. Et quand on veut mécaniser la réponse pénale à cette infraction en prévoyant qu'elle est automatiquement caractérisée dans tel ou tel cas, on lui enlève en réalité son sens, on écrase l'échelle de gravité des actes. Il y a une infraction d'atteinte sexuelle qui existe déjà et qui punit un majeur qui a des relations sexuelles, même si elles sont consenties, avec un mineur de moins de 15 ans. Donc la loi exprime une protection particulière du mineur.
Pour vous, la loi protège suffisamment les mineurs aujourd'hui ?
La loi protège suffisamment les mineurs par rapport aux infractions qui sont prévues. Après, on pourrait effectivement discuter de la définition de l'infraction de viol en l'exprimant de façon plus claire, par exemple, que l'absence de consentement est un élément constitutif de l'infraction de viol. Il peut y avoir une réflexion sur la rédaction de l'incrimination. Il peut y avoir effectivement de telles réflexions qui peuvent être intéressantes. Mais en revanche, fixer un seuil et mécaniser la réponse, ça ne paraît pas être une solution adéquate par rapport au problème qui nous est posé. Et par ailleurs, c'est surtout, encore une fois, en favorisant le meilleur recueil de la parole des victimes, en permettant que les enquêtes puissent avoir lieu dans de bonnes conditions, parce qu'on aura mis en œuvre tous les accompagnements nécessaires, qu'on améliorera la réponse pénale. Effectivement, on constate qu'il y a trop peu, parfois, de procédures qui aboutissent, et il y a des choses à faire par rapport à ça, mais ce n'est pas par l'instauration d'un seuil.
Merci beaucoup, on vous a entendu. Merci Katia Dubreuil, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Dans l'actualité également, l'ouverture de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées avec l'organisation d'une multitude d'actions de sensibilisation partout en France, l'organisation de forums. Depuis 1987, la loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'avoir au moins 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs. 30 ans après cette loi, Olivier Samin, eh bien cet objectif n'est toujours pas atteint.
Et non, en 2015, qui est la dernière année dont les chiffres sont connus, on en était à 3,8%. Alors c'est une moyenne qui cache des réalités très différentes, avec certains secteurs plutôt bons élèves, la santé, l'action sociale ou l'enseignement, et d'autres secteurs qui sont à la traîne, notamment l'information et la communication. Eh oui, même si, il faut le souligner, ces deux secteurs rattrapent un peu leur retard. Mais à côté de ce taux d'emploi, il y a un autre indicateur qui mérite d'être regardé, c'est celui du taux de chômage des handicapés. Et là, on voit tout le chemin qui reste à parcourir. Ce taux de chômage, il est de 19%, autrement dit, deux fois supérieur au taux de chômage général. Se faire embaucher quand on souffre d'un handicap, c'est souvent mission impossible, même pour des postes où ça ne devrait pas poser de difficultés. Voici par exemple la galère qu'a vécue Séverine, qui a du mal à marcher et qui a recherché pendant plusieurs années un emploi de secrétaire médicale.
Je ne parlais pas de mon handicap et puis ben, je l'évoquais donc en fin d'entretien, quoi. Et là, la personne disait « Ah bah oui, mais ça va pas aller avec vous ». Alors qu'au départ, frapper du courrier, classer des dossiers, accueillir les gens, par rapport à mon handicap, c'est tout à fait faisable et accessible. Mais bon, on disait que comme j'étais handicapée, j'allais pas être comme les autres, donc ça n'allait pas aller.
Voilà, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, d'autant que le nombre de chômeurs handicapés augmente alors que le marché du travail s'améliore.
Merci Olivier Samin.
Il est 12h50, Europe Midi, la suite du journal. Maxime Switek.
Il faut sauver le patrimoine français. C'est la mission que le président Macron a confiée à Stéphane Bern qui depuis avance ses idées pour tenter de trouver des fonds qui permettraient de restaurer les 10% de monuments en péril. Stéphane Bern avait déjà émis l'idée d'organiser un tirage spécial du loto pour récolter de l'argent. Cette fois, il propose de faire ce qui se fait généralement à l'étranger, c'est-à-dire faire payer l'entrée de certains monuments et notamment les cathédrales.
Dans tous les pays d'Europe, les cathédrales se visitent comme des monuments et sont payantes. Même en Italie, particulièrement, en place Saint-Marc. Alors, vous avez 12 millions de visiteurs à Notre-Dame de Paris. Ces 12 millions de visiteurs empêchent de toute façon les fidèles de se recueillir tranquillement. Je trouve normal, et eux-mêmes trouvent normal, je pense à tous ces gens qui viennent du Japon, de Chine, du monde entier, de payer. 2 euros, par exemple, seraient bienvenus. Il y a d'ailleurs des bornes à l'entrée de Saint-Germain-des-Prés, et les visiteurs satisfaits de leur visite avec des cartes de crédit sans contact payent 2 euros pour remercier le monument d'être aussi bien restauré. Par exemple, ça pourrait être collecté par un fonds ou l'Observatoire du patrimoine religieux ou par exemple la fondation qui s'occupe de sauver le patrimoine catholique à Paris et qui dépend du diocèse. Pourquoi pas, au contraire.
Et voilà, pourquoi pas. Stéphane Bern au micro d'Aude Vernuccio pour Europe Midi. Les sports avec les matchs de barrage pour la Coupe du Monde en Russie et toute l'Italie tremble. Les Italiens doivent battre ce soir les Suédois s'ils veulent voir Moscou. Coup d'envoi à 20h45. Le sport, c'est aussi la voile avec la victoire du tandem Coville-Nélias dans la Transat Jacques Vabre. Leur maxi trimaran saut début ultime a franchi la ligne d'arrivée à Salvador des Bahia au Brésil il y a trois quarts d'heure. Les deux marins ont mis moins de 8 jours pour traverser l'Atlantique. Corinne Boulou, victoire qui boucle en plus une année exceptionnelle pour Thomas Coville.
Oui, c'est l'année d'un marin hors pair. L'an passé, à la même époque, Thomas Coville se lançait sur un tour du monde en solo en quête d'un record. La cinquième tentative fut la bonne en moins de 49 jours. En juin, toujours à bord de son trimaran Sodebo de 31 mètres et 22 mètres de large, il se lance à l'assaut de l'Atlantique Nord. Bingo ! Record de la traversée en 4 jours et 11 heures. Et ce matin, eh bien, Thomas Coville, l'assoiffé des records, remporte cette fois la 13e édition de cette Transat avec Jean-Luc Nélias. Là encore, au terme d'une traversée express de 7 jours et 22 heures entre Le Havre et Salvador de Bahia. Une première en multicoque pour le Breton de 49 ans, plus habitué aux places d'honneur, et une victoire sur le fil avec sans doute 2 à 3 heures d'avance seulement sur le tandem Jos Rouxel, dont le géant des mers dernière génération nécessite encore quelques réglages pour donner tout son potentiel. Thomas Coville, lui, connaît son voilier par cœur, un sérieux avantage, et il naviguait avec un ami, Jean-Luc Nélias, marin chevronné mais aussi son routeur météo habituel. Et voilà la recette pour remporter cette Transat Jacques Vabre. Coville peut désormais penser à la construction en cours de son nouveau maxi trimaran pour voler au-dessus des flots. Oui, vous avez bien entendu. Oui. Dans une course inédite autour du monde en 2019.
Et en plus, vous l'avez dit, c'est une histoire d'amitié. C'est beau. Merci Corinne Boulou.
Europe Midi.
Il est 12h53 sur Europe 1, Maxime Switek.
À l'Europe à la une tous les jours, nous regardons ce qui fait la une chez nos voisins européens. Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour Maxime.
Dany, aujourd'hui vous regardez du côté de la Pologne avec cette manifestation impressionnante ce week-end à Varsovie, une marche nationaliste.
Moi je dirais plutôt inquiétante. Mais bon, alors, c'est le 11 novembre 1918 que la Deuxième République polonaise naît, et c'est l'indépendance de la Pologne, séparation de la Prusse, de l'Empire austro-hongrois et de la Russie. Donc chaque année, manifestation dont de plus en plus nationaliste et de en moins nationale. Alors, vous aviez deux slogans qui expliquent tout. Pas islamiste, pas laïque, la Pologne ne peut être que catholique. Ou l'Europe sera blanche ou dépeuplée. Eh bien voilà, un peu le ton était donné. Plus de 60 000 personnes ont manifesté. Les identitaires d'extrême droite de Pologne, mais et aussi de Slovaquie, d'Italie, de Hongrie, même quelques franchouillards. Bref, tout cela ont fêté l'Europe blanche contre tout ce qui n'est pas blanc.
Dany, il faut quand même rappeler que la Pologne est très divisée sur ces questions-là.
Oui, la Pologne est divisée. D'ailleurs, il y avait d'autres commémorations. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que, par exemple, le président de la République, M. Duda, n'a pas condamné ce qui a été dit à la manifestation d'extrême droite, et que des tas de gens ont été cloisonnés chez eux. Alors, il y avait d'autres manifestations, des femmes contre pour l'avortement, pour le droit à l'avortement, pardon, ou alors même, lorsqu'il y a des manifestations monstres, pour soutenir la Cour constitutionnelle, qui devait être destitué ou a été en partie destitué par le Parlement à la majorité de droite polonais.
Dany, cette Pologne dure, elle peut compliquer considérablement la tâche de l'Europe.
Et oui, on a vu un peu l'histoire du président Tusk qui était invité, qui était l'ancien premier ministre libéral polonais. Il avait été invité par le président Duda. Mais ce qui a été incroyable, c'est qu'on l'a mis au dernier rang et la télévision nationale officielle s'est moquée en permanence lors de ses commémorations de lui, s'est moquée de lui. Et même des chroniqueurs n'arrêtaient pas de lui reprocher son manque de patriotisme. Oui, je crois que cette droite, en fait, le gouvernement de droite s'appuie entre autres sur le climat créé par l'extrême droite pour refuser par exemple toute politique européenne. En fait, la Pologne n'a qu'un slogan, on veut l'argent européen, mais sinon on n'en a rien à cirer de l'Europe. Voilà, si vous voulez, le slogan du gouvernement de droite, de la droite dure polonaise.
L'Europe et la Pologne à la une aujourd'hui avec vous. Merci Dany, à demain.
À demain Maxime, ciao ciao.
Il est 12h56, vous écoutez Europe 1 et Europe Midi continue dans un instant avec vous Maxime Switek.
Et avec la météo, le journal de 13h, le débat d'Europe Midi, où en est l'enquête 2 ans après les attentats du 13 novembre, et puis 13h15, circuit court. Tout à l'heure nous parlerons des JO, les Jeux parisiens de 2024, seront-ils écolos et solidaires ?
Europe. La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
La météo, Christine Peña, après le week-end splendide que nous avons vécu
super,
sur une bonne partie de la France, voilà. Vous nous dites que ça va aller de mieux en mieux cette semaine.
Oui, cette bouffée d'air frais en provenance du pôle Nord, effectivement, a créé ce week-end un choc thermique. On a tous subi ce mauvais temps, le vent violent en Méditerranée quand même, la pluie, le froid, bref. Bonne nouvelle, tout ça est en train de s'évacuer, l'anticyclone des Açores revient, il va remettre de l'ordre dans tout ça. Le vent est moins intense déjà, on a enregistré une rafale à 180 km/h sur le Cap Corse. Donc le vent, il est toujours présent à 80 km/h en Corse, toujours entre 110 et 120 km/h en vallée du Rhône, ça c'est pour le Mistral, et une petite pointe à 130 pour la Tramontane. La neige, elle tombe encore sur les sommets. La Corse sera la dernière à se débarrasser du mauvais temps. Il va falloir attendre jeudi, parce que nous, c'est dès mardi que les éclaircies seront présentes sur tout le continent. On a quand même une zone un peu plus nuageuse sur les bords de Manche, jusqu'en région parisienne. On est vraiment en limite, on devrait garder quand même un ciel lumineux. Puis les températures, elles sont toujours très basse pour la saison, 14 à 16 en Méditerranée, mais seulement 10 toujours demain à Paris, entre 6 et 8 pour les régions du Grand Est.
Merci Christine Peña.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h. L'essentiel de l'actualité, Maxime Switek.
Et à la une, l'hommage de la France aux 130 victimes des attentats du 13 novembre. C'était il y a 2 ans. Cérémonie d'hommage ce matin au Stade de France, aux terrasses de plusieurs cafés parisiens et devant le Bataclan. En présence d'Emmanuel Macron et du gouvernement, Mathieu Bock, vous avez assisté à ces cérémonies qui se voulaient très simples.
Oui, Emmanuel Macron n'a pas pris la parole, conformément aux souhaits des familles. Il a écouté, dans un silence absolu qui a envahi toute la rue, les noms des victimes égrenés un à un au micro. Avec Anne Hidalgo, il a déposé une gerbe de fleurs devant la plaque apposée sur la façade du bâtiment. Et dès la fin de la cérémonie, quelques rescapés et des familles de victimes ont quitté rapidement les lieux, trop éprouvés. Parmi eux, Jesse Hughes, le chanteur du groupe Eagle of Death Metal, qui jouait sur la scène du Bataclan ce soir-là.
Mon cœur est ici. Je me sens français. Je me sens faire partie de cela. Je n'aurais voulu être nulle part ailleurs que dans ce monde. Je voulais venir jusqu'ici. J'ai été soutenu, encouragé. Les Français m'ont toujours poussé à continuer à jouer ma musique. C'est probablement l'une des plus belles choses que je n'ai jamais vues. Les mauvaises personnes ne gagnent pas quand les gens ont de l'amour dans leur cœur, vous comprenez? Si je croise n'importe qui ici dans ce pays, j'aurais envie de lui dire « je t'aime ».
Puis Emmanuel Macron, très ému, a passé un long moment à s'entretenir avec les rescapés et les familles des disparus. Une fois le chef de l'État parti, de nombreux anonymes qui avaient assisté à la cérémonie de loin ont pu s'approcher du Bataclan pour déposer une fleur et se recueillir quelques instants.
Mathieu Bock en direct du Bataclan. Merci Mathieu. Et ce 13 novembre 2015, nous y reviendrons dans un instant. Nous nous demanderons avec nos invités où en est l'enquête. 2 ans après, vous verrez que les rôles de chacun se sont considérablement précisés. Le bilan du séisme qui a frappé une zone montagneuse à cheval entre l'Iran et l'Irak hier soir, le bilan s'est alourdi. Au moins 330 morts, plus de 2500 blessés. Une centaine de répliques ont été enregistrées depuis hier. L'ouverture devant les assises des Deux-Sèvres d'un procès très particulier ce matin. Un homme est jugé pour avoir délibérément transmis le virus du sida à plusieurs de ses compagnes. Salomé Legrand, vous êtes en direct de New York. Salomé, la cour s'est penchée ce matin sur la personnalité de l'accusé.
Oui, Sekou Camara, 42 ans, qui comparaît libre ce matin, très grand, en jean et veste anthracite. Il est à l'aise à la barre, d'origine sénégalaise, arrivé en France peu après ses 20 ans. Il répond à toutes les questions d'une voix calme, posée. Il assume parfaitement sa polygamie. « Pour moi, c'est normal », dit-il. La présidente tente d'y voir plus clair sur ses nombreux enfants reconnus, 7 dont 3 sont nés de femmes différentes la même année, en 2003. Une date clé de ce dossier, car c'est à ce moment-là qu'un médecin qui va témoigner à ce procès informe Sekou Camara de sa séropositivité. Il l'entretient alors longuement de la nécessité de se soigner et de se protéger. L'homme n'a fait ni l'un ni l'autre, il a même manipulé plusieurs de ses conquêtes, comme Séverine.
Je lui avais demandé de se protéger, il a retiré le préservatif. Je l'ai rappelé plus tard dans la journée pour lui dire que moi, il était hors de question qu'on ait des relations s'il ne se protégeait pas. Et il m'a appelé une ou deux semaines plus tard pour me dire qu'il avait fait un test, qu'il fallait que je vienne le voir. Il m'a montré un test qui était négatif. Jamais j'aurais pu imaginer que quelqu'un puisse montrer un faux test, quoi. C'est même pas imaginable, quoi.
C'est au bout de 2 ans de relation que Séverine découvre, grâce à une rumeur qui court à Niort, que l'homme la trompe et se sait malade. Elle a depuis retrouvé d'autres femmes contaminées par Sekou Camara. Elles sont 3 serrées les unes contre les autres sur le banc des parties civiles, accompagnées d'amis venus les soutenir.
Salomé Legrand à Niort pour Europe Midi. La confirmation est venue ce matin d'un tweet du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera sera bien mise en place au 1er janvier 2019. Et puis un rappel, la Transat Jacques Vabre, le duo Thomas Coville, Jean-Luc Nélias est arrivé en fin de matinée à Salvador des Bahia au Brésil. Victoire après moins de 8 jours de mer pour ce débat ultime. Dans un instant, le débat d'Europe Midi, 2 ans après, où on est l'enquête sur les attentats du 13 novembre. À tout de suite.
Europe Midi. Si l'idée de cuisiner une énième dinde farcie au marron vous fait frémir d'avance, allez donc faire un tour en kiosque. Le nouveau hors-série cuisine de Madame Figaro, c'est 100 recettes de fête chic et simples à réaliser qui twistent les classiques. En vente actuellement en kiosque au prix de 5,20€. Madame Figaro cuisine, parce que la cuisine est aussi une affaire de style.
Europe.
Europe Midi, Maxime Switek.
Le débat d'Europe Midi jusqu'à 13h15 sur Europe 1 avec vos invités, Maxime, et toutes vos réactions, vos questions sur Twitter avec le hashtag 1 midi et au standard d'Europe 1, bien sûr, le 39-21, 50 centimes la minute.
Où en est l'enquête 2 ans après les attentats du 13 novembre? Question que nous posons alors que plusieurs cérémonies ont eu lieu ce matin au Stade de France, aux terrasses des cafés, devant le Bataclan à Paris. 130 personnes ont perdu la vie ce soir de novembre 2015. Pour en parler avec nous en studio, Élise Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes reporter au service police-justice du journal Le Monde. Vous avez publié ce week-end un très long article qui synthétise justement ces 2 années d'enquête. À vos côtés, Thibaut de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat de plusieurs victimes de l'attentat du Bataclan, d'une famille blessée au Stade de France, et vous êtes par ailleurs le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Élise Vincent, la première chose qui frappe en lisant votre récit, c'est la préparation, l'organisation qu'ont nécessité ces attaques du 13 novembre. Les terroristes qui ont agi, d'après les informations que vous avez, ils se préparaient depuis combien de temps ?
On peut imaginer qu'ils se préparaient facilement depuis 1 an, en fait. Et contrairement à tout ce qu'on a pu voir récemment dans les attentats au couteau ou à la voiture Bélier, où c'est des actions beaucoup plus spontanées, là, l'attentat, les attaques, faut dire, du 13 novembre, correspondent vraiment à un schéma de cellules très organisées, très en amont. Et ça, c'est effectivement assez surprenant et même malheureusement fascinant à observer, parce que on voit qu'ils avaient pensé à tout avec un système un peu d'emboîtement, de poupées russes, de différents commandos qui pouvaient agir à différents endroits. Tout ça, on le sait un peu déjà, mais en passant par la route des migrants. Et aujourd'hui, donc, on a quand même 15 personnes mises en cause. C'est énorme.
C'est énorme. Thibaut de Montbrial, vous qui avez accès évidemment au dossier. Justement, on disait 15 personnes mises en cause avec très peu de choses, comment dire, improvisées. Tout était très bien planifié.
Oui, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que quand l'enquête, cette enquête titanesque a commencé au petit matin du 14 novembre, nous étions très peu nombreux à penser que 2 ans après, la justice allait réussir à obtenir autant d'éléments. D'abord parce qu'il y en a, un caractère d'extranéité considérable. Ensuite, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui sont en Syrie. Et aujourd'hui, c'est vrai, vous avez salué, et je le fais aussi, la synthèse d'Élise Vincent. Quand on lit cette synthèse, on se rend compte qu'on a un tableau sur la façon dont les choses se sont passées, avec, c'est vrai, près d'un an de préparation, qui est un tableau qui est aujourd'hui quasi complet.
L'un des premiers suspects qui apparaît évidemment au lendemain du 13 novembre, c'est Salah Abdeslam. On a beaucoup parlé de lui, de sa fuite, etc. On sait aujourd'hui quel a été son rôle précis.
Plus ou moins, même ouais, c'est assez précis, on peut dire. En gros, il a été un des logisticiens clés. Il y avait au moins 3 ou 4 logisticiens clés. Il est un de ces 4, élu avec une mission assez précise, qui était de ramener tous les futurs kamikazes depuis l'Europe de l'Est, qui arrivaient par la route des migrants, et donc via la Hongrie, via l'Allemagne, jusqu'en Belgique. Ça a été son rôle principal. Il a pu avoir d'autres actions, comme la location de planques, la location de véhicules, mais c'est ça son rôle principal. Et effectivement, le seul mystère qui reste un peu autour de lui,
c'est la ceinture.
Devait-il se faire exploser ou pas? Et ça, a priori, les expertises ont montré que cette ceinture n'était pas, peut-être défaillante, mais pas certainement. Elle n'est pas totalement concluante, cette expertise, mais la justice, au regard des témoignages qu'elle a pu récolter après, c'est-à-dire à la fois de gens qui ont vu Salah Abdeslam pendant sa kéval et à qui il s'est confié, et à qui il a dit qu'il voulait se faire exploser mais que sa ceinture n'avait pas explosé, et au regard aussi de lettres trouvées dans un ordinateur qu'il avait écrit à sa sœur et à sa mère, en conclut et penche pour l'hypothèse qu'il devait mourir malgré tout.
C'est aussi votre hypothèse, Thibaut de Montbrial ?
Alors oui, avec un bémol, c'est que si, c'est toujours difficile de faire des conjectures, mais si ça avait été le cas, on ne comprend pas qu'il ne se soit pas battu quand la police belge l'a retrouvé. Il soit laissé interpeller quasiment sans résistance.
La question, l'une des questions qui se pose, c'est évidemment de savoir qui est le cerveau, entre guillemets, le cerveau de ces attentats. Vous donnez un nom, Élise Vincent, Oussama Attar, un belgo-marocain. Pourquoi dites-vous qu'il pourrait être le cerveau? Et qui est-il, ce Oussama Attar?
En fait, ce Oussama Attar est originaire de Belgique, donc qui, vu que l'essentiel des attentats ont été préparés en Belgique, en fait un soupçon important. Et ensuite, on a retrouvé, c'est la principale preuve, des éléments dans des ordinateurs des kamikazes, où ils ont échangé avec lui, à la fois parce qu'ils lui ont envoyé leur lettre testament, principalement pour ceux qui se sont fait exposer lors des attentats de Bruxelles, mais aussi parce qu'il a clairement participé à donner des conseils pour la fabrication des explosifs. Or, comme il est a priori toujours dans la zone irako-syrienne et que c'est le seul membre identifié de l'organisation État islamique dans la hiérarchie de l'EI qui est incriminé nommément dans cette enquête, on pense qu'il avait un rôle supérieur par rapport aux autres.
On a une chance de voir un jour cet Oussama Attar devant une cour d'assises en France, Thibault de Montbrial.
C'est impossible de vous répondre. D'abord, on ne sait pas s'il est toujours vivant. Il faut espérer que oui. En tout cas, c'est déjà une avancée significative que de connaître son rôle. C'est-à-dire qu'on arrive à l'attraper vivant ou pas. En tout cas, le fait de savoir que sans doute à la tête de toute cette architecture impressionnante, il y a cet homme, c'est une avancée significative. Ce que je voudrais ajouter, c'est que 2 ans après, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons vécues mois après mois comme des actes peut-être distincts les uns des autres, qui apparaissent complètement groupés.
Comme quoi, par exemple ?
La cellule de Verviers en Belgique, qui est démantelée après un combat avec les forces de police belges une semaine après Charlie, au mois de janvier 2015. L'attaque du Thalys, dont on sait aujourd'hui avec certitude qu'elle est complètement liée au sein de cette cellule. Le 13 novembre, soit dit en passant, il faut dire aussi aux gens, parce que ça n'a pas été très médiatisé, qu'il y avait une quatrième attaque de prévue dans le métro parisien le 13 novembre.
Ce dont parle Élise Vincent dans son article également.
Qu'il y avait une attaque de prévue à l'aéroport d'Amsterdam ce même jour, qui n'a pas eu lieu également. Et puis, l'attaque de Bruxelles le 22 mars 2016. Donc on a affaire à une cellule qui a été, avec un temps de préparation très en amont, mais surtout qui a été très active à la fois en Belgique, en France et puis aux Pays-Bas, même si ça a échoué.
Une quinzaine de personnes mises en cause, leur point commun, c'est la Syrie ?
Globalement, oui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve plus forcément dans les attentats plus récents, c'est que tous, en tout cas les kamikazes et même les logisticiens, ont pu passer par la Syrie pour des périodes en fait relativement longues. Chez les kamikazes, on a la plupart d'entre eux étaient en Syrie depuis 2013, ce qui est assez long. Seulement 2 d'entre eux seulement depuis quelques mois. Et ensuite, les logisticiens, même s'ils ne sont pas allés forcément jusqu'en Syrie, sont au moins allés en Turquie et ont tenté de passer de l'autre côté. Donc, ont été en contact avec des gens de l'EI, même en Turquie.
Vous arrivez à comprendre aujourd'hui, Élise Vincent, qui a payé pour ces attentats? Vous le dites dans votre article, ça a coûté cher. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a financé ces attentats?
Non, justement, c'est un des gros mystères encore de l'enquête et un des éléments sur lequel la justice travaille. C'est que pour l'instant, on ne sait pas très bien. On sait que les logisticiens avaient beaucoup d'argent en cash sur eux. On sait qu'il y a eu un voyage, par exemple, au Royaume-Uni à l'été 2015 de la part de Mohamed Ourani pour récupérer plus de 3000 euros en cash. Mais ça n'a pas suffi à tout financer puisqu'il y en a il y a eu certaines évaluations qui ont circulé autour de 80 000, 100 000 euros. Il faudra vérifier. Et donc, est-ce que c'était par des escroqueries? Est-ce que c'était par du trafic de stupéfiants, puisque beaucoup avaient des casiers judiciaires et baignaient dans le milieu du banditisme? Tout ça, c'est encore à explorer.
Ça fait partie des questions que vous vous posez aujourd'hui, Thibault de Montbrial?
Oui, je pense qu'il faut... Qu'est-ce que c'est cher? Si c'est 80 000 euros, compte tenu de la durée de vie de cette cellule, de la complexité du fait de faire entrer en Europe des gens, etc., sur plusieurs pays, de se procurer des armes, des voitures, des planques, c'est pas si cher que ça. C'est de l'argent à l'échelle individuelle.
Non, mais
ça
nécessite une organisation, une vraie organisation.
Ça, c'est certain. Mais pas une organisation si grande qu'on aurait pu le penser.
Quelle zone d'ombre vous voyez au-delà de l'argent dont on a parlé, au-delà de Salah Abdeslam et de la raison pour laquelle il ne s'est pas fait exploser ce soir-là? Quelle autre zone d'ombre vous voyez encore aujourd'hui dans cette enquête?
C'est une question que mes clients qui ont été blessés au Stade de France me posent régulièrement. Je ne comprends pas et j'aimerais savoir, ils aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé au Stade de France. Parce que très, très franchement, au Stade de France, c'est un échec. Ça n'a aucun sens. Soit l'attaque aurait dû avoir lieu alors que le public allait rentrer dans le stade, soit à la sortie du match, soit on aurait pu imaginer qu'un des stadiers soit bousculé et qu'ils courent jusqu'à l'intérieur du stade. Mais là, de se faire sauter en ayant fait très peu de victimes, et j'en parle avec d'autant plus de sympathie que je défends certaines de ces victimes, c'est un vrai point d'interrogation que ce semi-échec du Stade de France.
Vous avez une réponse à ce point d'interrogation-là, Élise Vincent, aujourd'hui?
Non, on n'en a pas et je ne suis pas du tout sûr qu'on en ait. Grenelle, et notamment pour la simple raison qu'on a à peine identifié tous les kamikazes du Stade de France. Aujourd'hui, sur les trois, on a les noms officiels que de deux. Il manque toujours le nom d'un des Irakiens qui s'est fait sauter. Et malheureusement, les deux autres sont morts. Et a priori, dans ce qu'on a pu reconstituer de la cellule, on n'a pas forcément beaucoup de témoins qui vont pouvoir nous dire pourquoi ce soir-là, ce commando-là n'est pas allé au bout comme il aurait dû, ou en tout cas voilà, n'a pas fait le nombre de morts peut-être voulu.
Thibaut de Montréal.
Oui, il y a aussi une autre inconnue, c'est qu'est devenu l'artificier. Son nom m'échappe à la seconde, mais il est reparti avant le début des attaques du 13 novembre. On sait que pour un réseau terroriste, l'artificier, c'est vraiment l'un des personnages clés. Les services de renseignement essayent toujours d'arrêter ou de neutraliser l'artificier, parce qu'un artificier peut recommencer à fabriquer des explosifs. Et c'est vrai que qu'est devenu cet artificier, c'est également une des questions.
Vous en parlez dans l'article. Son nom m'échappe aussi, je n'ai pas noté son
Ahmad Al-Had, c'est difficile à prononcer. Et a priori, il a même fui donc avant les attentats. Il est venu en mission express, juste pour aider à préparer les explosifs, puisque le commando en Belgique n'était pas forcément très préparé à ça, et est reparti par train, avion, et sans doute Turquie, Syrie, mais tout ça est très flou, et aussi ça fait partie des pistes à creuser.
Alors les magistrats prévoient la fin de leur enquête pour le printemps 2019, c'est la date qui a été donnée par le procureur Molins la semaine dernière. Ça veut dire que le procès pourrait se tenir quand ?
Peut-être. Il va falloir déjà mettre en place matériellement un procès totalement hors norme. Peut-être qu'il aura lieu dans une salle spéciale qui ne sera pas au sein du palais de justice. Ça, c'est rien que les questions d'organisation matérielle vont prendre du temps.
Mais l'audiencement, c'est au moins 2021, puisqu'il faut plus d'un an, un an et demi pour avoir de la visibilité généralement.
Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans Europe Midi, dans ce débat d'Europe Midi. Merci Élise Vincent, donc reporter police justice au Monde. On peut encore lire votre article évidemment en ligne. Thibaut de Montbrial, avocat, on le disait, de plusieurs victimes de l'attentat du Bataclan, d'une famille blessée au Stade de France et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans Europe Midi.
Et dans un instant sur Europe 1, puisqu'il est 13h15, place à Circuit Court, et aujourd'hui on va parler des JO.
Absolument, les JO de 2024 à Paris seront-ils écolos et solidaires? Tout de suite.